C'est le temps qui fait la panique.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC.
Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences.
Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio Capi.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est le ton qui fait la panique. Votre émission qui décrypte l'impact des mots, des discours et du langage sur notre société. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui malheureusement s'invite de plus en plus dans nos conversations de tous les jours et dans l'espace public, le langage menaçant, Babel.
Oui, Polly, et les menaces, on les entend partout, dans les familles, les marchés, le transport public et même sur les réseaux sociaux. Des phrases comme « je veux te taper »,« je veux te montrer qui je suis » ou encore « je peux t'écraser » sont devenues presque banales, au point que certains les profèrent sur le ton de la plaisanterie. Mais derrière ces mots, qui sortent souvent sous l'effet de la colère ou de l'agacement, se cache une réalité inquiétante.
Exactement, Babel. Hein, ce type de langage qui peut sembler anodin a des conséquences bien réelles. De plus en plus, les menaces se banalisent dans le discours public, ciblant également des anonymes, mais aussi des personnalités publiques. Il y a quelques semaines, on a vu plusieurs menaces de mort proférées contre Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. Des journalistes, des activistes ou des influenceurs font également souvent l'objet de menaces. La recrudescence de ces propos violents relayés sur les réseaux sociaux et dans certains médias pose de nombreuses questions.
Alors, comment ce langage menaçant s'installe-t-il dans nos interactions de tous les jours et dans l'espace public? Quels sont les risques et les conséquences de ces paroles, qu'elles soient proférées en privé ou en public, ou encore dans les cyberespaces? Et surtout, comment peut-on y remédier?
Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités. Tout d'abord, Alain-Joseph Lomanja, il est docteur en éthique sociale. Bonjour Alain-Joseph Lomanja et merci surtout d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Polly, bonjour à tous les auditeurs.
Merci d'être là, Alain-Joseph Lomanja. Nous recevons également Manassé Mabondo, analyste politique et membre du Politoscope, une plateforme dédiée à l'analyse de la cyberviolence verbale en République démocratique du Congo. Nous disons bonjour à Monsieur Mabondo.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour.
Ensemble, nous allons tenter de comprendre pourquoi ce langage menaçant est si répandu, quel danger il représente et surtout quelles solutions nous pouvons envisager pour encourager un langage plus apaisé et constructif. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à écouter un premier extrait de notre sketch radiophonique. Cette scène se déroule dans le cadre d'un milieu universitaire avec des étudiants. Elle dévoile une altercation entre des étudiants où des menaces sont proférées sous l'effet de la colère. On écoute.
Oh, attends,
écoutez les gars, arrêtez, écoutez, les gars, écoutez-moi. N'oubliez pas qu'on est la meilleure équipe de rhétorique ici. Ne vous laissez pas intimider par cette équipe de Mboum. Il est temps qu'on en finisse avec eux une fois pour toutes.
Amani, attends, une minute.
Non mais Kitoko, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas que les concours va bientôt commencer?
Je sais, c'est juste que, en fait, tu les menaces là, mon frère. Ouais, tu les menaces de les tuer.
Ça c'est une menace.
Mbou, il m'a dit qu'il veut te causer avant le début du concours.
Tu sais quoi, j'ai la merde. Hey. Qu'il a au diable.
Mais
sachez qu'aussi longtemps que c'est Mbou, il sera là comme chef de l'autre groupe. Hein? Notre club de rhétorique prend des risques. Je le répète, il faut en finir une fois pour toutes. Il doit disparaître.
Disparaître? Il faut en accoucher.
Amani,
tu assumes ce que tu dis là.
Arrête de raconter du n'importe quoi à tes membres. Hey. Mec, avoue que l'idée d'affronter mon club te fout la trouille. Tu te prends pour qui? Ça me fait pas petit. Bientôt, toi et ton foutu club, vous ne serez plus que de l'histoire ancienne.
Encore une menace de mort?
Non. C'est plutôt une promesse.
Ok.
Et j'assume mes propos.
On verra bien.
Tu es un danger public à écarter.
On verra bien qui sera écarté.
Qui sera écarté ici.
On verra bien.
Ne t'en fais pas, hein. Bientôt, toi et ton foutu club, vous ne serez plus que de l'histoire ancienne. peut-on entendre l'un des étudiants menacer son camarade? Une phrase qui illustre bien comment des menaces peuvent surgir dans des situations banales, Alain-Joseph Lomanja. Quels sont les facteurs qui parfois poussent de manière générale les êtres humains à faire recours à un langage menaçant?
Alors, avant peut-être de répondre directement à votre question, je voulais me poser une question. Depuis que j'ai pris connaissance du thème, je me suis demandé si le langage de menace en soi n'était pas plutôt un épiphénomène d'un autre phénomène plus complexe que serait devenu dans notre société la normalisation et la banalisation de la violence. Personnellement, sans être psychologue, j'avais observé au Sankoro, après la deuxième guerre du Congo, une forme de mutation dans les jeux des enfants. On est parti des jeux qui reproduisaient la vie quotidienne, on construit des cases, on prépare la nourriture, aux jeux d'armes où on voyait les enfants dans une forme de violence symbolique, tirer sur les autres, d'abord fabriquer des armes en bambou, tirer sur les autres et éprouver une sorte de plaisir à avoir tiré sur les autres. Et j'étais en train de m'interroger en profane, si ces éléments n'étaient pas le reflet d'une forme de violence intériorisée dans la psychologie, dans l'évolution des enfants et qui pourrait un jour avoir des conséquences dans la société en général. Et quand vous arrivez par exemple à Kinshasa pour la première fois ou après un long temps d'absence, la première chose qui saute aux yeux, c'est que les gens parlent très fort. On dirait tout le monde crie, même quand quelqu'un te dit quelque chose d'innocent, de pas méchant, mais de parler à haute voix, et tu as l'impression que, en fait, c'est toi qui tu es considéré comme un sourd. Et je me demandais comment on arrive à ces genres de phénomènes-là dans la vie de la société. Et c'est là que j'ai plutôt l'impression que on est devenu comme une forme de société, une société qui a banalisé la violence, et qu'elle soit verbale, qu'elle soit psychologique ou physique, à partir du moment où l'État qui devrait exercer une violence légitime pour maintenir le vivre ensemble des citoyens n'est plus très présent dans la vie des citoyens, est-ce qu'on n'a pas banalisé la violence? Est-ce qu'on ne l'a pas utilisée comme instrument politique contre les adversaires politiques? Est-ce qu'on n'a pas pensé que, au lieu de la parole de dialogue, on peut résoudre les problèmes de société plus rapidement et plus facilement par la violence? Donc pour moi, c'est autant d'observations de la vie quotidienne qui me donnent à penser que nous avons normalisé et un peu banalisé la violence. Et c'est ça qui expliquerait que ça s'exprime aussi facilement dans les langages des menaces tels que nous le voyons, que ce soit pas seulement dans les réseaux sociaux, mais regardez aussi même dans les transports en commun, au marché, on dirait qu'il y a une rude compétition pour la vie où chacun pense que c'est par la force des muscles qu'il faut s'imposer plutôt que par les dialogues et les échanges.
Alors peut-on considérer que de nos jours, on assiste dans notre société à une forme de recrudescence des propos menaçants? Si oui, comment est-ce qu'on peut expliquer un tel phénomène? Est-ce que le recours à ce langage menaçant a toujours existé? Ou est-ce le contexte actuel qui explique son omniprésence actuellement dans notre société?
Bon, en fait, moi ce que je pense personnellement, sans avoir fait une étude scientifique à ce sujet-là, c'est que le phénomène de la violence en général ou le phénomène du langage menaçant n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui existe de tout temps. On a connu déjà, par exemple, quand on regarde dans les histoires bibliques, on voit des conflits, des fratricides, des éléments de violence qui sont permanents dans l'histoire humaine. Mais je pense qu'il y a peut-être des facteurs et des phénomènes qui contribuent à augmenter l'usage de ces langages-là. Parce que je me dis, par exemple, quand tu vis dans la société allemande de l'après-deuxième guerre mondiale, tu as l'impression que tout le monde est assez retenu. Les gens se parlent comme en murmurant. Tu n'entends pas les gens élever la voix. Donc il y a le poids d'une histoire qui fait que les gens évitent la violence pour avoir vécu, expérimenté la violence extrême qu'a été l'Holocauste ou les camps de concentration et autres. Mais quand tu viens chez nous et que tu vois, par exemple, que des anciens rebelles deviennent du jour au lendemain des vice-présidents de la République, des ministres, donc des boss, comme on dit dans notre société, c'est-à-dire en quelque sorte qu'on a légitimé la violence.
Merci Alain-Joseph Lomanja pour ces explications. Je me tourne vers vous, Manassé Mabondo, en tant qu'analyste de la cyberviolence verbale en République démocratique du Congo au niveau de Politoscope. Et quelle lecture vous faites de l'évolution du langage menaçant dans l'espace public, notamment sur les réseaux sociaux?
Merci. Par rapport à votre question, je dis d'entrée de jeu que chaque jour on monite les débats publics et vous allez remarquer que la violence ne baisse pas. Généralement, on catégorise toutes ces violences numériques en types. Alors on a comme des injures, des violences sexistes, de la stigmatisation ethnique, la xénophobie, le racisme, l'homophobie, etc. Et quand vous monitorez les débats publics congolais, vous allez voir que généralement ce qui revient, ce sont les injures. Et en deuxième position, parfois c'est le discours de haine ou parfois c'est la stigmatisation ethnique. On a assisté tous à, bon, je sais pas si je vais parler d'escalade verbale, avec la vidéo qui est devenue virale, de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso, là où dans d'autres vidéos on parle de Caméré, dans d'autres vidéos on parle de Kagame, etc.
Il s'agit de menaces.
Mmh. Et quand vous lisez le commentaire qui ont découlé de cette vidéo, vous allez voir que puisque en fait sur Internet ou sur X, il y a une forme de ce qu'on appelle avatar. Donc quand on attaque Caméré, il y a des gens de Caméré qui sortent, qui commencent maintenant à faire les cyberattaques. Donc, X est vraiment partagé. Donc, il y a des avatars de Katumbi, des avatars de Kamere, avatars de Mboss, avatars de Jean-Marc Kaboun. Donc, c'est comme ça. Alors, quand vous analysez tout ça, ça vous sort une violence dont vous ne pouvez pas imaginer.
Ok. Mais est-ce qu'on peut dire aussi que l'anonymat qu'offrent les réseaux sociaux est de nature à favoriser la prolifération des discours menaçants?
Exactement. J'ai déjà relevé ça une fois. Bon, ici, c'est très facile avec l'octroi de la carte SIM. Sous d'autres cieux, il y a un peu une certaine réglementation assez rigoureuse par rapport à l'octroi de la carte SIM. Mais ici au Congo, je peux me réveiller, je sors au coin de mon avenue, je peux m'acheter 50 cartes SIM. Et avec 50 cartes SIM, je peux former une armée numérique moi-même. Donc, ceux-là qui insultent vraiment d'une manière assez frontale, généralement, ce sont des comptes anonymes.
Merci beaucoup Manassé Mabondo pour ces explications. Retrouvons à présent nos amis les étudiants dans un deuxième extrait de notre feuilleton radiophonique. On va voir que les menaces proférées commencent à avoir de sérieuses conséquences sur la vie au campus. On écoute.
Arrête avec ces menaces. Regarde-toi, tu n'es qu'un crapaud qui essaie de se gonfler pour se mesurer à une vache. Heureusement que ce sera plus facile de te faire éclater comme un ballon gonflable.
Tu sais quoi? Ce n'est pas parce qu'une sauterelle s'est volée qu'elle peut se comparer à un épervier.
La machine est déjà activée. Je te l'ai dit. On va tous vous buter.
On n'avait plus de place.
Et quoi? Mais qu'est-ce qui te fait rire?
En tout cas, Mani, hein? Donc, tu peux pas balancer des menaces de mort envers notre chef, quand même.
Bouddha, pardon. Hein, ma chérie, qu'en penses-tu d'avoir le monopole de proférer ces menaces de mort?
Oui.
Mais nous aussi, nous sommes capables à proférer des menaces envers votre leader.
Oui, c'est ça. Ne cédez pas à leurs menaces. Nous sommes des bombes à retardement. On va les exploser.
Mais où est-ce que ça va s'arrêter, ce langage de menace?
Et
je crois qu'on a trop bavardé avec ce jeu de menaces. Il est temps d'agir.
Il est quoi?
Les gars,
il est temps de faire quoi?
Emparez-vous de lui.
Hein?
Ah, de qui?
Emparez-vous
de lui.
Préparez-vous, les gars.
Emparez-vous de lui.
Riche, on va en finir avec ces enfoirés. À l'attaque.
Mais,
les gars, mais, attaquez-les.
Attaquez-les. Chef Amani, chef.
Quoi?
Faut-il vraiment qu'on en arrive là? J'ai croyé que c'était juste des simples intimidations, non?
Je vous ai dit d'attaquer. Oh,
mais chef, on va
attaquer. C'est l'ordre. Qu'est-ce que vous attendez? Moi, on va tourner en ligne.
Chef, attendez, s'il vous plaît.
Attaquez-les.
Ne cédez pas à leurs menaces. Nous sommes des bombes à retardement. On va les exploser, lance l'un des étudiants. Alain Joseph Lomanja, quelles sont selon vous les conséquences sociales et psychologiques lorsque le langage menaçant est de plus en plus récurrent dans une société?
Alors, la première des conséquences qu'on voit, c'est en fait la cohésion sociale qui diminue. Mmh. Et une autre des conséquences, c'est qu'il y a comme une sorte de manque de confiance mutuelle entre les différents acteurs, que ce soit dans les milieux restreints comme les milieux étudiantins. Vous avez aussi les milieux politiques, même les acteurs politiques qui sont d'une même obédience ou d'une même famille politique qui peuvent s'attaquer pour des raisons bien précises. Et c'est autant de choses que l'on observe. Mais si vous permettez, je voudrais peut-être revenir un peu à ce que disait tout à l'heure Manassé. Je crois qu'on peut observer des épiphénomènes comme les injures, comme ce qu'il a appelé la stigmatisation ethnique ou quoi, dans les réseaux sociaux, on peut les grossir en faisant une analyse momentanée de ce qu'on observe sur les réseaux sociaux, mais je crois qu'il ne faut pas éloigner ces phénomènes-là des réalités sociales et sociologiques que nous sommes en train de traverser, surtout en ce moment dans le pays. Moi, j'ai plutôt le sentiment que les réseaux sociaux ne sont qu'un reflet, peut-être grossissant de la réalité, mais un reflet de la réalité que nous sommes en train de traverser. Et cette réalité, c'est que nous sommes une société divisée. Et quand on est une société divisée, quand on n'a pas le pouvoir d'État capable de réguler le vivre ensemble et que les institutions politiques ou les animateurs des institutions politiques semblent s'aligner dans la logique des camps, il y a une fracturation de la société qui fait que il est difficile de tenir ensemble. Et moi, je voudrais vraiment insister sur le phénomène dans sa globalité et qu'on ne soit pas seulement en train de souligner le langage des menaces, parce que le langage de menace est en lui-même déjà une conséquence des réalités sociales qui nous échappent. Quand vous allez, par exemple, au marché et que vous voyez que les gens se marchent dessus, les gens s'injurient, les gens se volent et qu'on peut vous attaquer pour une montre, pour, je ne sais pas, une chaînette ou quoi, vous pouvez peut-être souligner les faits que vous observez, mais n'oubliez pas qu'il y a une réalité sociale beaucoup plus complexe qui explique ces faits-là et dont il faut tenir compte si on veut trouver des solutions aux problèmes.
Merci pour ces explications, Alain Joseph Lomanja. Je reviens vers vous, Manassé Mabondo. Lorsqu'un responsable politique devient la cible de menaces de mort, par exemple, comme cela a été le cas récemment pour Vital Kamerhe, quelles répercussions cela peut-il avoir sur le climat politique?
Une forte répercussion. Déjà, quand vous voyez l'actualité ce jour-là, vous allez remarquer que il y avait même de tweets qui sortaient, des gens qui tweetaient, qui disaient par exemple « Heureusement que l'honorable Vital Kamerhe était en Israël ». Au moment où la vidéo était virale, Vital Kamerhe était en Israël. Mmh. Et il y avait une photo de Vital Kamerhe qu'on avait sortie, qu'il était en train comme de prier.
Sur le mur de Lamentation.
Voilà, sur le mur de Lamentation. Mmh. Et les gens ont dit « Heureusement qu'il était en prière ». Peut-être s'il n'était pas en prière, cette tendance-là peut-être allait le toucher. Mmh. Donc vous remarquez déjà que sur le plan politique, il y a eu même une interview, soit un point de presse, que le clan de Mbosso a fait pour pouvoir amener un accalmé. Mmh.
parce que ça commençait à aller dans tout le sens.
Alors désormais, il existe un code du numérique ici en République démocratique du Congo qui punit donc les infractions commises sur la toile. Que risquent les personnes qui, sur les réseaux sociaux, s'amusent à proférer des menaces ? Sont-elles effectivement poursuivies et condamnées par la justice ?
Je crois que le code numérique condamne, mais bon, je pense que la faiblesse est que le code numérique n'est pas assez vulgarisé. Y a des gens qui sont inconscients en fait de ce code, et bon, c'est à l'État de pouvoir vulgariser ça. Vous ne pouvez pas seulement condamner les gens pendant que vous ne leur avez pas présenté ce qui est mauvais. Donc, essayez de vulgariser, de présenter les gens ça. Et en ce moment-là, quand quelqu'un connaît qu'on peut s'insulter, on peut parler sans s'insulter, on peut être tolérant, s'il n'obtempère pas, il sait qu'il y a, la loi qui peut toujours le condamner.
Merci encore une fois pour ces précisions, Manassé et Mabondo. Voilà, cela nous permet d'entamer la dernière partie de cette émission. Mais avant, je vous propose de retrouver nos amis les étudiants dans ce troisième extrait de notre feuilleton radiophonique. Cette fois, nous allons voir comment les personnages tentent de désamorcer les tensions et de trouver des alternatives à la rhétorique menaçante à laquelle ils recouraient jusqu'ici. Écoutons.
Les gars, vous allez où tous comme ça? Revenez, s'il vous plaît.
Les gars, s'il vous plaît, vous n'allez pas abandonner le club. S'il vous plaît, écoutez-vous.
En tout cas, ouvrez grandement vos oreilles là. Écoutez-vous deux. Si nous vous avions choisi comme leader, c'est parce qu'on vous prenait pour modèle. Mais là, on constate qu'on s'était trompé.
Il y a qui a raison. Des leaders qui nous encouragent d'attaquer et de tuer les autres.
Maman.
Non, merci. Kito ko kuisa.
Ouais.
Ben tu fouinda.
On y va.
C'est quoi ça?
Non, on a ça. Ah, Kito.
Pardon.
Tu ne crois plus à mon leadership?
J'y croyais avant et je t'ai respecté. Amani, tu le sais. Moi, je te respectais beaucoup, tu le sais. Mais vous nous servez de très mauvais exemples là. Comment tu peux nous engager sur le chemin de la violence à travers ces menaces des morts? Comment?
En tout cas, nous n'allons pas continuer à vous assister en train de vous chamailler
jamais.
En proférant des menaces de mort.
Jamais.
Non. C'est très dangereux pour vous et pour nous aussi.
C'est ça. C'est exactement ça. Tu sais, depuis qu'on est au campus, on n'a jamais entendu ce langage de menace des morts. Trop, c'est trop. On y va, Mouta.
Cher leader, vous avez compris.
Mais on va
Ah oui.
Vous avez compris.
Oui.
Vous êtes allé trop loin. Nous ne pouvons plus accepter de vous suivre si vous n'arrivez pas à changer votre langage. Vous devez éviter de nous intoxiquer.
En tout cas, nous n'allons pas continuer à vous supporter en train de vous chamailler en proférant des menaces de mort. C'est très dangereux. Fini par conclure l'un des étudiants. Alors, Alain-Joseph Lomanja, malgré les tensions sociales et politiques, est-il possible de se parler, d'exprimer la contradiction sans forcément recourir à des menaces? Comment promouvoir l'usage d'un langage plus apaisé, moins menaçant, ou comme font les étudiants dans les sketchs, peut-on simplement ignorer ces menaces?
On ne peut pas ignorer les menaces, mais on peut promouvoir, comme vous le dites si bien, une autre manière d'entrer en relation, d'interagir dans la société qui ne soit pas forcément le recours au langage de menace ou à la violence ou plus généralement l'instrumentalisation de la violence au service peut-être des intérêts politiques. Et là, il y a déjà un élément très important qui est déjà souligné par les étudiants quand ils se désolidarisent de ceux qu'ils appellent les leaders qui les poussent à injurier ou à menacer ou à vouloir tuer les autres. Et je pense que cet élément est important. La solidarité dans le mal intervient souvent quand la recrudescence des appartenances tribales et ethniques sont très prononcées. Et donc, si on commence déjà par se désolidariser de ceux qui promeuvent ces langages violents dans la société, ce serait déjà un pas. Mais je pense qu'il y a un processus plus global d'éducation à la paix qui permet, par exemple, d'envisager les dialogues comme moyen de résolution des conflits, comme moyen de résolution des problèmes au niveau de la société.
Merci, Monsieur Lumanja, pour ces précisions et pour ces idées que vous venez de développer. Monsieur Manassé Mabondo, dites-nous quelle stratégie vous, personnellement, vous recommanderiez pour lutter contre la cyberviolence verbale qui s'exprime notamment via des menaces et promouvoir un débat public apaisé sur les réseaux sociaux. C'est vrai que vous avez déjà commencé à aborder cela, nous disons, le travail de sensibilisation que vous menez au niveau de votre structure.
Je pense que ce travail est un travail collectif. C'est graduel à tous les niveaux. Je vais toucher le premier niveau, c'est l'État. C'est que l'État congolais doit savoir ce qu'on veut. On veut quoi ? On veut construire quel État ? On veut construire quelle société ? On se projette comment ? Est-ce qu'on veut construire une société qui est basée essentiellement sur la violence, même si toute la violence ne partira pas, mais on veut construire quel État, en fait? On projette l'État congolais comment, la vie congolaise comment? C'est la première des choses. Pourquoi je dis ça? Parce que vous allez remarquer que ce sont généralement les politiques, d'une certaine manière, qui orchestrent cette violence par rapport à leur prise de position, par rapport à leur dire. Donc, ils ont d'abord un travail important à faire eux-mêmes, et puis aussi impulser ça. L'émission C'est le temps qui fait la panique contribue déjà pour éradiquer ces phénomènes, mais ce sont des émissions comme ça qu'on doit soutenir, qu'on doit subventionner pour que ça quitte l'enclos de la radio au Capi, que ça se fasse dans des écoles, que ça se fasse en plein air. On parle de la violence.
Mais quel rôle peuvent jouer par exemple les plateformes digitales elles-mêmes dans l'éradication ou dans la lutte contre les propos menaçants sur leur propre plateforme?
Je donne l'exemple du Politoscope. Au sein du Politoscope, on a identifié la majeure partie de violences qui reviennent dans le débat public congolais, et on avait commencé à lancer sur les réseaux sociaux une campagne qu'on avait appelée Beau été. Donc on avait identifié tout ce qui était comme mots-clés. Zoba, idiot, Zobat, Zambien, Soriano, tout ça, Kanambe, Rwanda. On avait identifié plus de 50-60 mots qu'on avait mis. On avait une campagne qu'on faisait Beau été. Mais à chaque fois qu'on publie des daily reports, il y a toujours cette manière de communiquer qu'on fait. Toujours de petits messages comme des vidéos, des spots qu'on dit. Vous pouvez faire ceci sans faire cela. Vous pouvez pas tomber comme ça. C'est un peu. En fait, on a beaucoup d'idées, mais ça doit être vraiment appuyé parce que les moyens aussi sont un peu minimes. Donc voilà un peu.
Merci encore une fois Manassé Mabondo pour ces explications. C'est donc sur cette note que prend fin cette émission. En fin de compte, nous retenons que le langage menaçant, qu'il soit proféré en public ou en privé, n'est jamais anodin, Babel.
Oui, Polly, qu'il s'agisse de simples paroles en l'air ou de menaces plus sérieuses, les conséquences peuvent être terribles. Ce type de langage alimente les tensions et peut même conduire à des violences physiques. Et en politique, ce type de langage tend à exacerber les divisions et alimenter la violence.
Finalement, la lutte contre la prolifération des discours menaçants est une responsabilité collective. Les leaders politiques, les médias, les plateformes digitales, mais aussi chacun d'entre nous, tout le monde a un rôle à jouer pour construire, édifier une société où les mots rassemblent plutôt qu'ils ne divisent.
Merci encore une fois à nos invités Alain-Joseph Lumanja et Manassé Mabondo pour leur disponibilité et surtout pour la pertinence de leurs interventions. Merci également à Pierre Diassinois qui nous a accompagnés du côté de la régie technique. Merci enfin à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité.
Vous écoutiez C'est le ton qui fait la Panique, une émission proposée par l'ONG La Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi. Retrouvez cet épisode en rediffusion ce samedi à 11h05 et 19h05 ou en podcast à tout moment sur www.radiookapi.net et www.abarirdc.net.
N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et suggestions sur les pages Facebook X de Radio Okapi et AbariRDC. Merci encore et à très bientôt pour un nouvel épisode de C'est le temps qui fait la panique. Au revoir.
Au revoir.
C'est le temps qui fait la panique. Oui. une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio Katika.